Une vie, une œuvre, Elia Kazan, 1909 Turquie, 2003 États-Unis. Sa mère, grecque, née dans une famille cultivée d'Istanbul. Elia Kazan en dit à Michel Simon qu'ils habitaient une belle maison et avaient des serviteurs. Alors qu'il a 4 ans, la famille part pour les États-Unis où son père vend des tapis. Il fait ses études dans un collège réputé où le décalage social le renvoie à une grande solitude. Il a 20 ans au moment du crash boursier. Son père est ruiné et contre de petits travaux, Elia Kazan obtient la possibilité de suivre les cours d'art dramatique à Yale. En 1934, il fait ses 2 premières mises en scène au théâtre et au cinéma. En parallèle, il adhère au Parti communiste, dont il sera exclu en 1936. Adepte de la méthode Stanislavski, en 1939, il travaille à la radio avec Orson Welles et en 1947, fonde l'Actor Studio. On lui doit, en 1944, le Lys de Brooklyn, puis le Maître de la Prairie, suivent Un tramway nommé Désir, Viva Zapata, À l'Est d'Éden, L'Arrangement. Avec Le mur invisible et Sur les quais, il reçoit l'Oscar du meilleur réalisateur et en 1999, un Oscar pour l'ensemble de sa carrière. Une vie, une œuvre, Elia Kazan.
Une vie, une œuvre, Elia Kazan. Hubert Prolongeau, Guillaume Baldi.
Racontez un peu les faits tout de même, non ? Il faut que Michel le fasse.
Often when it's brought up,
compliqué.
Non.
I'll answer that. Yes, please. Often when it's brought up, I feel it's an effort to embarrass me.
À chaque fois qu'on soulève ça, je vois ça comme une volonté de m'embarrasser.
Non, pas du tout. Au contraire.
I'm not either embarrassed, ashamed, or anything else. I think it was something I did that I still think is right. Most of my friends don't agree with me.
Beaucoup de mes amis ne sont pas d'accord, mais moi je pense que j'ai eu raison de faire ce que j'ai fait.
Aux États-Unis, la mort d'un géant contesté du cinéma. Elia Kazan, le réalisateur d'À l'Est d'Éden. Hollywood ne lui a jamais pardonné son attitude durant le McCarthyisme.
Génie et salaud. Elia Kazan restera à jamais ce Janus moderne, immense cinéaste et vil délateur, incarnation des deux phases d'une Amérique qui aura glissé des rêves de justice sociale des années 30 à la grande peur des rouges des années 50. Américain, américain. Elia Kazan n'aura-t-il pas incarné jusqu'au bout les contradictions d'un pays qu'il a en même temps critiqué avec la férocité de ceux qui aiment trop et incarné jusque dans ses plus nauséabonds reniements? Fils d'un marchand de tapis, Elia Kazanjoglou, né en 1909 dans une famille grecque vivant en Turquie, et grandit environné du bruit des pogroms et du désir de l'exil. Dans un de ses plus grands films, le plus autobiographique en tout cas, America, America, tourné en 1963, il se met en scène dès les toutes premières secondes. Plus que d'autres sans doute, ce gamin de l'exil et de l'ambition n'a jamais guéri de son enfance.
My name is Elia Kazan. I am a Greek by blood, a Turk by birth, and an American because my uncle made a journey.
Mon nom est Elia Kazan. Je suis grec par le sang, turc de naissance et américain parce que mon oncle a fait un long voyage.
My father's family is different than my mother's family, but both of them were Greeks.
La famille de mon père est différente de la famille de ma mère. Ils sont tous les deux grecs. Il y a eu comme une minorité totalement terrorisée. La famille de mon père vient d'une ville qui s'appelle Kayseri. Et c'était une situation un petit peu moins terrifiante que dans le reste de la Turquie. Mais ils n'ont jamais oublié qu'ils étaient de toute façon une minorité opprimée. En Asie mineure, parfois les Turcs avaient des crises et devenaient totalement sauvages et décidaient de tuer des Arméniens.
stayed in their houses, the front of their houses were all almost.
Et donc les Grecs avaient tendance à plutôt rester chez eux, à se barricader dans leurs maisons derrière des volets en bois. Et je les ai vus, moi, ces maisons-là. Les Grecs à Kayseri aimaient plutôt les Turcs, c'était une bonne ambiance sinon. Un de mes premiers souvenirs, c'est d'être dans le lit de ma grand-mère qui me racontait des histoires. D'ailleurs, c'est ce que j'ai raconté par la suite dans America America sur les massacres des Arméniens. Et d'ailleurs, elle me racontait comment mon grand-père et ma grand-mère avaient caché des Arméniens dans leur cave.
Les Grecs et Kayseri parlaient grec dans la maison, mais outside, dans le marché.
Les Grecs à Kayseri parlaient grec dans leur maison, mais quand ils étaient à l'extérieur, par exemple sur la place du marché, ils parlaient turc. Donc en fait, c'était vraiment une vie bilingue, et moi je parle aussi bien le grec que le turc. Et maintenant encore, je parle aussi bien le grec que le turc. Ça veut dire que je parle la langue de l'opprimé et la langue de l'oppresseur.
En 1913, la famille d'Elia Kazan arrive aux États-Unis. L'enfant a 4 ans. Extrait d'America America.
Sort of a nephew song.
Oh, an escadash. Want to be an American?
Oh. Yes, sir. Yes, sir.
Well, the first thing to do is to change that name. You want an American name, boy?
Immediately after the disembarkation of the first class.
Bon, pour simplifier et pour résumer un petit peu, j'ai été élevé et éduqué dans une famille, dans un foyer où on était très conscient du fait qu'on vivait un petit peu dans la terreur et qu'il fallait vivre d'expédients pour survivre. Et quand on est arrivé en Amérique, on a importé ça avec nous, ce sentiment qu'on était à nouveau étrangers. Je suis arrivé en Amérique quand j'avais 4 ans et on est arrivé dans un ghetto avec la famille de mon oncle. On vivait tous dans le même immeuble, dans des appartements séparés. Et on restait beaucoup entre nous, on prenait nos repas ensemble. Et on était toujours très inquiets, très prudents. Et on ne se mélangeait pas avec les Américains.
Le rapport de Kazan avec l'exil est fondamental.
Michel Simon, journaliste.
Son ami James Baldwin, qui était un très grand ami de Kazan, lui a dit un jour « You are a nigger too ». Toi aussi, tu es un nègre. C'est-à-dire qu'effectivement, Kazan, c'est le petit émigré d'Anatolie, d'une minorité grecque de Turquie, qui arrive à force du poignet, poussé par son institutrice et par sa mère, contre son père qui était marchand de tapis et qui voulait qu'il succède à son père. C'était quelqu'un qui est arrivé dans les collèges les plus huppés de la Nouvelle-Angleterre, Williams, qui était un des trois de la petite Ivy League, qui est vraiment le truc le plus select des collèges, et qui évidemment lavait les plateaux pour payer ses études, n'avait pas de bourse, devait trimer pour monter jusque pendant ses 4 années de collège, qui était moqué parce qu'il n'était pas très beau, qui était moqué aussi parce qu'il était métèque.
Mais vous savez, pendant toute ma jeunesse, j'ai été assez antisocial. Bon, je lisais, je travaillais le soir. Et je me souviens très bien que les autres garçons n'étaient pas très aimables avec moi et je ne leur en veux pas du tout. C'est vrai que j'étais assez froid. J'étais un peu un loup glacial.
Oui, on peut dire que certainement, je parlais de volonté ou ambition.
Pierre Rissian, cinéaste et producteur.
Dans ce sens-là, il est profondément américain, parce que ce soit les gens qui arrivaient en Amérique, ou c'était les parents, voire les grands-parents qui arrivaient en Amérique, ils voulaient absolument s'imposer. Ça, c'est une chose qui est claire. Oui, il est américain, et on sent qu'il aime profondément la réussite, qu'il aime le luxe de la réussite, qu'il aime même la luxure de la réussite. Et finalement, l'arrangement trahit Kazan. Il se trahit lui-même dans son personnage, qui il était. C'est-à-dire quelqu'un d'avide de gloire, avide, même s'il semble le critiquer, avide de gloire, avide de richesse, avide de gloire et de richesse. Oui.
Cette avidité s'exprimera d'abord dans le théâtre. Kazan n'a que 22 ans quand il rejoint le groupe Theater créé par Lee Strasberg et Harold Kurman et dont il devient vite un rouage essentiel. Comédien, il joue dans Waiting for Lefty et Golden Boy, deux pièces de Clifford Odets, auteur de gauche représentatif des idées sociales que défend le groupe Theater. Mais c'est en mettant en scène Arthur Miller et Tennessee Williams, deux des plus grands dramaturges de l'époque, qu'il deviendra célèbre. En 1947, il cofondera l'Actor Studio, qui révélera entre autres Marlon Brando et James Dean. Hollywood repère vite ce jeune homme ambitieux et doué. Il joue dans deux films d'Anatole Litvak, La ville conquise et Blues in the Night, et devient réalisateur en 1945 avec Le Lys de Brooklyn. Suivront L'académique Le Maître de la Prairie, qu'il reniera plus tard, et Les dynamiques Boomerang, Histoire d'une erreur judiciaire et Panique dans la rue. Ces films sont encore un peu guindés, didactiques. L'Oscar du meilleur film, donné en 1947 au Mur invisible, qui dénonce l'antisémitisme, le consacre. Dans ces années-là, il ne cessera d'aller du film à la scène et de la scène au film. Catherine Fruchon-Toussaint, vous êtes biographe de Tennessee Williams. Vous avez écrit sur lui un livre il y a 3 ans, Tennessee Williams, une vie. On est ici au Salon Roger Blin, au Théâtre de l'Odéon, théâtre qui a repris l'an dernier, soudain l'été dernier, une des pièces les plus célèbres de Tennessee Williams.
Il faut peut-être d'abord recontextualiser la place du théâtre dans l'œuvre de Kazan, parce que évidemment on connaît ses films, mais on oublie que c'est d'abord par le théâtre qu'il a fait ses premiers pas dans le métier. D'abord parce que quand il épouse en 1935 Molly Day Thatcher, elle fait partie de ce Group Theater, qui est ce collectif d'acteurs et de metteurs en scène qui, pendant une décennie, jusqu'aux années 40 environ, c'est un groupe qui a été fondé par Harold Kurman et Lee Strasberg, et ils vont essayer de révolutionner un peu l'approche très académique du théâtre américain. Et Kazan, de fait, se retrouve dans l'entourage. Il va monter peu à peu les échelons, stagiaire, régisseur et puis acteur. Pendant 8 ans, il va jouer des petits rôles sur scène avec le groupe Theater. Donc, il va jouer beaucoup les textes de Clifford Odets. Et puis, sa carrière s'arrête un peu rapidement parce que, d'abord, on lui donne que des rôles de dur à cuire, ce qui lui plaît pas. Et puis surtout, un jour, il est descendu en flammes par un critique new-yorkais. Et là, il est tellement humilié, il est tellement saisi d'horreur qu'il décide de mettre un terme à sa carrière. Et il ne sera plus désormais que metteur en scène. Mais alors, attention, parce que metteur en scène, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Lee Strasberg quitte le groupe Theater et que lui devient un peu le chef de groupe, là, il lance une machine incroyable puisqu'il va monter, à partir de 1938, une trentaine de pièces. Des fois, c'est une à deux productions par an. Donc, c'est vraiment énorme. Il va monter Irving Shaw, Arthur Miller, évidemment, et la pièce la plus célèbre, Mort d'un commis voyageur. Il va monter Thornton Wilder, William Inge, pour montrer l'importance du théâtre dans la vie de Kazan. J'aimerais bien citer cette phrase de John Lehrer, critique éminent du théâtre américain. Elia Kazan a été le premier auteur écrit en français, du théâtre américain, le premier metteur en scène à avoir insisté pour garder le contrôle de la mise en scène d'un bout à l'autre, le premier à voir son nom figurer au-dessus du titre, le premier à avoir du succès aussi bien à Broadway qu'à Hollywood. Un bon metteur en scène est à la fois un visionnaire, un homme de spectacle, un critique, un père, et Kazan était cela et bien plus encore. Donc je trouve que c'est une citation intéressante parce qu'elle montre à quel point Kazan n'est pas un metteur en scène parmi d'autres, qu'il est vraiment l'initiateur d'une nouvelle façon de mettre en scène le théâtre américain, une mise en scène dont il se sert aussi pour ses films. Et ça, je crois que c'est vraiment une caractéristique de Kazan.
avec Arthur Miller, c'était une proximité personnelle. On était immédiatement compatibles. Son passé était vraiment très similaire au mien. Son père était un marchand comme le mien. On avait vécu à New York, on était issus de la même classe sociale. Vraiment, on se comprenait parfaitement. Donc, pendant un moment, j'étais le metteur en scène parfait pour ces pièces, si on peut dire. Il écrivait des pièces dans lesquelles je pouvais vraiment me reconnaître. Et quand je l'ai lu, j'ai vraiment eu l'impression qu'il parlait de ma vie à moi. Tennessee Williams, je l'admirais en tant qu'auteur.
Mais avec Williams, il y avait toujours quelque chose qu'il écrivait qui would.
Avec Tennessee Williams, au contraire, j'étais souvent étonné, surpris, ce qui n'était pas le cas avec Arthur Miller.
Jealous or overwhelmed by Williams. I felt that he was a great genius.
Avec Williams, j'avais l'impression que c'était vraiment un génie supérieur.
Really, at one time, I would have directed anything he asked me to.
J'aurais mis en scène n'importe laquelle de ses pièces s'il me l'avait demandé. Et je crois que j'en ai mis en scène quatre.
Les deux hommes ont collaboré à 6 reprises ensemble, pour 4 pièces de théâtre et pour 2 films. Parce que Tennessee Williams avait aussi une conception très particulière du théâtre. Il avait même mis au point la théorie du plastique théâtre. C'est une théorie qui est très inspirée aussi des Russes. Par exemple, Tchekhov, dont il est vraiment un fervent admirateur, qui lui aussi avait préconisé dans des didascalies des approches particulières de la mise en scène. Par exemple, des lumières, des musiques qui correspondaient à l'entrée d'un personnage. C'est une façon aussi de dire que le théâtre, c'était quelque chose de vraiment tridimensionnel, où la vue, l'oreille et presque le toucher, en tout cas le sentiment, devait être suscité chez le spectateur. Et donc c'est comme ça aussi que Kazan et Tennessee Williams se s'entendent bien. Et donc en 1946-47, quand il commence à écrire Un tramway nommé Désir, Kazan s'intéresse tout de suite à la pièce. Et en effet, il est immédiatement séduit par l'originalité de l'écriture, par les sujets très transgressifs. Tout de suite, Kazan et Tennessee Williams travaillent sur la mise en scène, sur les personnages. Kazan cherche la colonne vertébrale de chacun d'entre eux. Ça se passe très très bien. Et ça se passe d'autant mieux qu'ils sont servis par un quatuor d'acteurs extraordinaires, avec en tête la révélation de Marlon Brando, qui vient de l'Actor Studio. Actor Studio qui est aussi, on va dire, l'école héritière du groupe Theater. Marlon Brando qui éclate vraiment sur scène. Il y a une alchimie, en fait. Il y a quelque chose de magique qui se passe. 850 représentations, 3 prix, le Pulitzer. Vraiment, c'est exceptionnel. Et d'où l'idée, d'ailleurs, quelques années plus tard, d'en faire un film, même si Kazan était contre. Sa première réaction a été de dire « Ah non, non, c'est comme si j'épousais la même femme 2 fois, je vais pas recommencer. » Et finalement, il a recommencé avec Vivien Leigh dans le rôle principal. Donc, ils ont fait des ajustements, sauf la question du viol. Là, Tennessee Williams a dit « Non, c'est un ressort dramatique essentiel dans Un tramway nommé Désir. » Donc, Kazan a trouvé la métaphore. Donc évidemment, il ne filme pas le viol de Blanche Dubois par Stanley Kowalski, mais à l'image, on voit un miroir qui se brise et on comprend tout, évidemment.
I can answer that. The obvious difference is that the vocabulary of films is the picture, is the image, and the vocabulary of plays tends to be the rhetoric or the lines or the dialogue.
La différence évidente, c'est que le langage du cinéma, c'est avant tout l'image, alors que le langage du théâtre, c'est la rhétorique ou les mots.
An interesting case, however, is the case of the play you mentioned, A Streetcar Named Desire. I directed it in the theater. I then, under the pushing of the author, I wasn't sure I wanted to do it again, but I did it finally. Williams asked me, and I did it. And I decided to open it up, what they call open it up, to enlarge it, to make it more cinematic, to make it have more movement, to make it start earlier and so on, and to tell it through photographs.
Un cas intéressant, c'est justement Un tramway nommé Désir. Je l'avais monté au théâtre et sous l'influence, sous la pression de Tennessee Williams, auteur, j'ai accepté d'en faire un film. Et ma première idée, ça a été de l'ouvrir, c'est-à-dire de le rendre plus cinématographique, d'aller à l'extérieur, de sortir de la scène.
Right, so then I worked very hard on that, and I had a good writer with me, and we worked together, and by the time it was done, I was so proud of it. I was so pleased with it. I said, I really got this thing and I'm going to take a vacation. So I went to Mexico for 3 weeks to rest after my labors.
Alors j'ai commencé à faire une adaptation pour l'élargir au cinéma avec un écrivain, un scénariste. J'étais tellement content, tellement heureux. Je lui ai dit, on a réussi quelque chose de remarquable. Et puis j'ai pris 3 semaines de vacances. Je suis parti au Mexique me reposer.
And I came back rested with my mind clear and I read what I'd written and it was terrible.
Alors je suis revenu reposé, mon esprit clair, j'ai relu ce que nous avions fait, c'était épouvantable.
It was very poor. And I went back and I just directed the play. I just photographed the play. Essentially, that's what I did.
Et finalement, j'ai filmé la pièce tout simplement au cinéma.
C'est du cinéaste qu'on se souvient le plus aujourd'hui. À ces films bien pensants et un peu corsetés des années 40, Le mur invisible ou L'héritage de la chair, drame du racisme, va succéder une suite d'œuvres lyriques. L'audace sexuelle qui irrigue Un tramway nommé Désir et Baby Doll, tous deux tirés de Tennessee Williams, affole la censure. Viva Zapata, dénonciation du pouvoir corrupteur, À l'Est d'Éden, le plus beau rôle de James Dean, La fièvre dans le sang, Le fleuve sauvage sont des poèmes frémissants qui dépeignent des passions destructrices dans une Amérique dont l'égoïsme, la soif de profit et le puritanisme sont mis à mal. America, America, fresque totalement incomprise à sa sortie, et l'arrangement sont très clairement introspectifs. À 63 ans, encore plein d'audace, il signe un petit film qu'il tourne dans sa maison de campagne pour un budget ridicule, Les Visiteurs, l'un des premiers films à aborder frontalement la guerre du Vietnam. Sa dernière œuvre sera Le Dernier Nabab, fresque crépusculaire sur Hollywood, qui sera un échec commercial cinglant.
Alors, je l'ai rencontré 2 fois. Je l'ai rencontré, j'étais très ami avec Anatole Domon, et Anatole Domon voulait faire un film avec Kazan qui ne s'est jamais fait. Vous savez peut-être, Anatole tenait table ouverte chez lui, il y avait pratiquement tous les jours, il y avait en général 10-12 personnes qui venaient, beaucoup de gens très intéressants, et c'est vrai que j'étais curieux de connaître Kazan, et j'étais curieux de le connaître, de le voir dans un groupe, et donc j'étais heureux d'être avec une, je sais pas, 8-10 personnes, et tout le monde devisait, et Kazan était très vivant, très, je dirais, hableur, quand même hableur. Pas de son désagréable, il n'était pas un homme profondément intelligent. Il était smart, comment dire en anglais,
malin,
mais je dirais, il n'était pas un homme profondément intelligent. On voit que Kazan est un showman, on le voit, un tramway de désir, mais c'est affecté.
Kazan que j'ai bien connu, au moins à partir du livre que j'ai fait avec lui, c'est-à-dire en 1971-70, qui a été enregistré dans sa maison de campagne de Sandy Hook, j'avais accepté l'idée d'un livre d'entretien. Il nous avait donné rendez-vous dans un hôtel de la Madeleine. Il était à l'époque, il avait perdu sa femme, il était avec Barbara Loden, qui allait devenir sa deuxième épouse. Et il était en train de taper à la machine quand on est entré dans sa suite à ce petit hôtel de la Madeleine. Et il était en train de taper à la machine l'arrangement, le roman qui allait lui redonner un grand souffle, qui avait vendu à 3 millions d'exemplaires. On ne s'est pas vu pendant quelques temps. Et en 1970, il accompagnait Barbara Loden à Venise, où elle présentait son premier film, Vanda, et son dernier d'ailleurs, magnifique film. Et c'est là que je lui ai proposé de faire un entretien avec lui, et il m'a tout de suite dit oui. Donc c'était déjà le côté très contact très rapide avec lui. C'est-à-dire, c'était pas quelqu'un qui il disait oui, et puis c'était oui. Il n'y avait pas des tergiversations, des calculs, etc. Et ensuite, on s'est beaucoup fréquenté. Je crois avoir presque 200 lettres de Kazan, plus ou moins développées, parfois 10 lignes, parfois 2 pages, où il parlait de tout, de lui-même, ses rapports avec ses enfants, mais aussi de ses projets, de ses lectures, des films qu'il avait vus. C'était toujours quelqu'un de très très ouvert. C'était quelqu'un qui était passionné. Et j'ai compris, en le fréquentant souvent, quand il venait dîner chez moi ou quand je marchais dans les rues de Paris, c'était un grand marcheur, il habitait à un hôtel, par exemple, près de l'Étoile, et moi j'habitais dans le 9e arrondissement, il venait à pied à 75 ans, à 80 ans. Et il parlait avec tout le monde, il parlait avec la marchande de journaux, avec le boucher, avec le marchand de fleurs, et il était toujours ouvert, et à l'écoute, il se débrouillait avec un français très basique. Mais néanmoins, les gens avaient l'impression qu'ils s'intéressaient à eux. Et je pense que les acteurs ressentaient ça aussi. C'est pour ça que ça a été considéré... Tous les comédiens que j'ai rencontrés plus tard, et même pendant sa vie, me disaient tous, c'était le plus grand directeur d'acteurs. Il n'avait jamais travaillé avec quelqu'un de ce genre, au théâtre ou au cinéma, parce que justement, il donnait l'impression à chaque acteur que chaque acteur était le meilleur acteur au moment où il tournait, où il jouait telle scène. Et je pense que ça venait de cette grande humanité. C'était un homme qui, quand il était jeune, adorait le cinéma soviétique. Il aimait Dovzhenko. Plus qu'Eisenstein, il aimait Dovzhenko, il aimait Renoir, il aimait Vigo, il aimait John Ford. Donc il aimait les cinéastes humanistes et je pense que il est resté fidèle à ça, à ce côté. Au fond, on l'appelait l'éclair prolétarien sur scène. C'est The Proletarian Thunderbolt, l'éclair prolétarien. Et il est resté toujours proche, c'est-à-dire qu'il pouvait se nourrir d'olives, d'un morceau de fromage. Il était très content de faire un repas comme ça. C'est vraiment le contraire du monsieur qui était arrivé au sommet de la fortune et de la réputation et qui n'exigeait plus que des choses hyper, hyper sélectes.
Mais Kazan n'a pas le don spontané de mettre la complexité sur l'écran. Il reconstitue des signes de complexité, etc. Mais il n'y a pas de complexité qui vient des tripes. Kazan vient, comme beaucoup de gens, beaucoup de cinéastes américains de sa génération, du théâtre. Mais il y a des gens qui venaient du théâtre et qui avaient le don du cinéma, l'instantané, la spontanéité de création du cinéma. Kazan, on voit bien qu'il ne sait pas où mettre la caméra, qu'il fait répéter les acteurs, qu'il fait jouer les acteurs, mais il ne sait pas où mettre la caméra. Il met la caméra a posteriori. La caméra est... Alors que, par exemple, si on prend les grands cinéastes, que ce soit Mizoguchi, que ce soit Walsh, pour en citer deux, ils mettent la caméra en même temps. C'est un acte spontané. Donner une instruction d'acteur, de diriger l'acteur et de placer la caméra, c'est un acte spontané. Kazan n'est pas un véritable cinéaste. C'est quelqu'un qui se reconstitue plus ou moins comme cinéaste, parfois aidé aussi par un chef opérateur. En fait, si vous voulez, si je conteste beaucoup de choses chez Kazan, c'est en partie à cause de cette place qu'il a, qui est à mon avis largement exagérée, voire usurpée. Je n'ai pas dit complètement, mais largement usurpé.
C'est quelqu'un qui a une reconnaissance en Amérique considérable. J'en parle avec tous les grands metteurs en scène américains. Et Scorsese, évidemment, qui a écrit un très beau film sur lui, Letter to Ilia, La lettre à Ilia, qui est un film magnifique, mais Tarantino, Paul Thomas Anderson, Steven Soderbergh, enfin, si vous parlez tous, c'est incontournable. C'est-à-dire que sur le jeu de l'acteur, par exemple, c'est indiscutable pour eux. C'est un cinéaste. Et puis sur sa critique de l'Amérique, c'est également indiscutable. Et sur le brillant de certains de ses films, c'est également indiscutable. Alors, la cinéphilie française, elle transforme les choses. C'est-à-dire que pour les cinéphiles purs et durs, Preminger est un plus grand metteur en scène que Kazan. Ce qui est peut-être vrai. Ce qui est peut-être vrai. Mais le problème n'est pas là. C'est que le problème de Kazan, c'est qu'il a été une cheville ouvrière. Il a été un tournant de l'histoire du cinéma où il a joué un rôle considérable d'émancipation des metteurs en scène pour devenir soi-même son scénariste, son producteur, etc. Je trouvais que les films de Kazan témoignaient d'un regard très critique sur l'Amérique. Et donc j'avais envie de parler avec lui. J'étais évidemment fasciné par la direction d'acteur. quand j'étais cinéphile, quand j'avais 15 ans, j'ai vu Sur les quais, et je veux dire, c'est comme un tremblement de terre de voir la façon dont Marlon Brando et Eva Marissin jouaient dans ce film. C'était du jamais vu. Je dis pas que Cary Grant ou James Stewart n'étaient pas d'aussi grands acteurs, mais ils introduisaient quelque chose qui était effectivement comme un séisme dans la direction d'acteur. Donc j'avais envie aussi de parler avec cet homme, de celui qui avait créé l'acteur studio, la méthode d'après Stanislavski, etc.
Quoi qu'on pense de son œuvre, rien ne saurait être dit sur Elia Kazan qui ne prenne en compte ce jour de 1952 où, après avoir une première fois refusé de le faire, il ira de lui-même dénoncer devant la commission des activités anti-américaines initiée par le sénateur McCarthy, ses amis communistes du groupe Theater. Le geste n'était pas sans conséquences. Même si leur nom était déjà connu, ceux qui étaient convaincus d'être ou d'avoir été communistes étaient placés sur des listes noires et condamnés au chômage. Kazan, qui revendiquera son geste dans le New York Times, refusera toujours de s'en excuser et incarnera jusqu'au bout la délation qui marqua cette triste époque. En 1999, quand un Oscar d'honneur lui sera remis à Hollywood par Martin Scorsese, la moitié de la salle refusera de se lever et de saluer celui qui, à ses yeux, restera à jamais le traître.
Il s'agissait absolument de mettre un holà absolu, notamment à l'importance dans certains syndicats des communistes, effectivement, enfin des gens qui étaient forcément des socialistes. Hein, mais...
Noël Burch, bon. Documentariste et historien du cinéma.
Qui avait peut-être une certaine estime pour l'Union soviétique, mais ça variait beaucoup. Hein. Non, mais c'était donc une sorte de grand final. Il s'agissait de trouver un truc qui serait médiatisé, qui rendrait l'humiliation de la gauche états-unienne très populaire, en quelque sorte. Et donc, on s'est attaqué à la gauche hollywoodienne, c'est-à-dire au Parti communiste hollywoodien. Il y avait une cellule du parti dans l'industrie hollywoodienne. Parce que il savait que ça attirerait l'attention, parce que il y aurait les actualités, n'est-ce pas? On voit plein de trucs, vous voyez, chaque semaine, on voyait une séquence aux actualités sur les auditions du comité contre les activités anti-américaines. Bon, c'était ça le truc, n'est-ce pas?
We know that Russia has atomic bombs. How much time do we have? Minutes, days, months, years? We don't know. Civil defense is everybody's business. It's your business.
Ils savaient, les inquisiteurs, n'est-ce pas? Ils savaient quels étaient les communistes de Hollywood. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une troupe, et le FBI avait une troupe à l'intérieur de la cellule du parti à Hollywood qui avait pour responsabilité lors de la reprise des cartes, n'est-ce pas, chaque année dans un parti. Moi, j'ai été 10 ans au PC, je connais très bien le mécanisme. Tous les ans, on remet sa carte, on reprend sa carte, n'est-ce pas, en quelque sorte, pour réaffirmer son appartenance au parti. On fait une fête et on fait ça. Et alors, ce garçon était censé les détruire, ces cartes, et il les gardait. Et donc, ils les avaient toutes comme ça, ils ont filé à l'FBI, qui, donc, connaissait tous les membres du PC, présents ou passés, d'ailleurs, à Hollywood. Et donc, cette fameuse question rituelle, êtes-vous ou avez-vous jamais été membre du Parti communiste états-unien, était purement un bidon, n'est-ce pas? Ils savaient la réponse. Et donc, les gens qui... Alors, quelques-uns ont dit oui, d'accord. Et ayant dit oui, d'accord, j'ai été communiste, ils sont obligés, par je ne sais pas quelle loi qu'ils ont là-bas, de dénoncer d'autres. C'était la loi. Donc, évidemment, pour l'immense majorité des communistes qui sont passés devant la commission, ils ne sont pas tous passés, hein, mais beaucoup, ils ont dit non, je refuse de répondre à la question. Et bon, et donc il y a une dizaine, comme vous le savez, qui ont été en taule à cause de ça. Et aussi, il y a des gens qui ont été interdits de tourner là-bas. Certains sont venus en France, certains sont des scénaristes, en tout cas, ont travaillé sous des noms d'emprunt à Hollywood même. Trumbo, c'est assez célèbre cette affaire-là. Bon, c'est même une des choses sur lesquelles on insiste beaucoup quand on fait l'histoire de cette époque. Bon, c'est intéressant, mais c'est absolument pas l'essentiel. L'essentiel, à mon sens, c'est qu'à partir du début des années 50, disons, n'est-ce pas, on avait déjà voté au Parlement la loi Taft-Hartley qui obligeait les syndicats à se purger de leurs communistes, n'est-ce pas, ou supposait-elle. Et d'une façon générale, il y a une espèce de chape de plomb, n'est-ce pas, qui descend sur tous les progressistes aux États-Unis. Mais il y a une chose intéressante à savoir, ces gens-là ne voulaient absolument pas se mettre à dos l'industrie hollywoodienne. Hein? Ça c'est le fric, n'est-ce pas? Il n'était pas question de cela.
Avez-vous déjà noté de la propagande communiste dans un scénario?
Trois attitudes devant la commission. La neutralité prudente de Gary Cooper.
J'ai refusé plusieurs scénarios parce que je les croyais teintés d'idées communistes. Ils n'ont pas tenté de m'engager parce qu'ils savent que je n'ai pas de sympathie pour le communisme. Robert Taylor.
La haine anti-rouge de Robert Taylor.
S'ils ne tenaient qu'à moi, on les renverrait tous en Russie ou dans un autre endroit aussi désagréable.
La défense indignée de John Howard Lawson, scénariste et responsable de la cellule du Parti communiste à Hollywood.
John Lawson, êtes-vous membre ou avez-vous déjà été membre du Parti communiste? Il est malheureux que je doive enseigner à ce comité les bases de l'américanisme. Là n'est pas la question. Avez-vous déjà été membre du Parti communiste? Je vous ai dit que je révélerai mes convictions au public américain. Il connaîtra ma position, qui est celle que j'ai exprimée dans mes écrits. Retirez-vous de la barre.
Le Parti communiste n'avait pas une grande influence, mais il était dans le domaine des arts, dans le domaine intellectuel, de la vie intellectuelle. Il avait une certaine importance, aussi bien à Hollywood que à New York, dans le milieu du théâtre. Il y avait beaucoup de scénaristes qui, en particulier, qui étaient membres du Parti communiste, qui étaient tous évidemment anticapitalistes, et que le crash de Wall Street avait conduit encore plus dans l'engagement, et même pour certains avait déterminé leur engagement.
Tout le monde avait cette aspiration à être un prolétaire à l'époque, parce que, bon, vous savez, les travailleurs, c'était la race pure, ils ne déviaient pas de leur chemin idéologique. Par exemple, moi, je portais toujours une casquette de travailleur, comme un chauffeur de taxi. Et puis je mettais des vêtements tout à fait communs. Et en fait, c'est une façon de tourner le dos à la bourgeoisie et à la petite bourgeoisie, parce qu'on pensait que c'était eux les corrompus.
Alors, Kazan est resté 18 mois au Parti communiste, il est entré en 34 quand il était au Group Theater. Il était très lié avec les dirigeants du Group Theater, Harold Klorman et Lee Strasberg, qui étaient ses aînés, pas de beaucoup, mais ses aînés. Et un jour, la cellule à laquelle il appartenait, alors certains disent oui, mais on n'a que son témoignage, mais je vois pas pourquoi, il faudrait le mettre en doute dans la mesure où ça paraît très clair, sa cellule lui a demandé de faire des rapports hebdomadaires, donc déjà de donner des noms, de faire des rapports hebdomadaires sur ce qui se disait au groupe Theater, sur les choix des pièces, car il reprochait les communistes américains, qui ont toujours été un des partis les plus staliniens de tous les partis communistes dans le monde, aucun rapport avec les Italiens par exemple. C'est un parti vraiment stalinien jusqu'à la fin. Il voulait savoir, il trouvait que le groupe Theater, qui était de gauche, n'était pas assez de gauche, ne faisait pas assez de pièces militantes, et donc il voulait connaître le fonctionnement interne. Et Kazan a refusé. Et comme il a refusé, il a été exclu. Il a été exclu par, je crois, 18 voix sur 19, la sienne. Il a refusé de se condamner lui-même et il a été exclu.
Donc ça, c'était 34-35, et puis, bon, j'ai continué même après avoir quitté le parti. Mais il faut dire que j'ai quitté le parti parce qu'ils m'ont fait un procès. Je refusais de suivre les directives et qui était qu'on devait faire la grève au Group Theater. Et moi, j'insistais en disant que c'était un organisme artistique et que les artistes étaient des artistes. Et eux voulaient qu'on soit des vrais communistes et qu'on fasse la grève. Et donc, on m'a traité d'être un peu un vendu, c'est-à-dire comme un contremaître, quelqu'un qui est entre les deux. Alors, quand j'ai refusé de suivre les ordres qu'ils me donnaient, ils m'ont fait un procès qui m'a laissé un souvenir inoubliable. La femme de Strasbourg, à l'époque, était communiste aussi, et elle lui a demandé de partir pour la soirée. Et puis, il y avait aussi un autre membre des jurys qui était là, qui était quelqu'un qui faisait partie du syndicat des ouvriers de l'industrie automobile. Et donc lui nous a fait tout un discours sur le danger que représentaient les contremaîtres qui étaient entre les patrons et les ouvriers. Et malgré tout, il ne m'avait jamais vu auparavant, il ne savait rien de ma situation ou de ma personnalité. Et à la fin, quand il a fallu voter, j'étais le seul à voter pour moi. Tous les autres ont voté contre moi. Et donc cette nuit-là, je suis rentrée puis j'ai dit à ma femme, bon, c'est fini, là, je démissionne. Mais malgré tout, vous savez, pendant des années après ma démission, j'ai été quand même encore fidèle à cette idéologie. Mais je me disais toujours, en Amérique, ça ne peut pas marcher, mais en Russie, ils savent, ils ont la vérité, ils font les choses comme il faut. Bon, jusqu'à évidemment que j'apprenne ce qui se passait avec Staline et puis tout ça.
Ce que je trouve monstrueux, c'est que on accepte la seule version de Cassan sur ce qui s'est passé. Peut-être qu'il dit la vérité, peut-être qu'il dit une grande partie de la vérité, une petite partie de la vérité, mais peut-être pas. Et je me le fais le reproche à moi-même, mais je le fais aussi à d'autres gens. Il y avait encore beaucoup de gens vivants que l'on aurait pu interroger, qui étaient ces gens qui l'a dénoncé, parce que ce sont eux qui l'a dénoncé. Il y en a qui étaient morts, mais d'autres gens étaient vivants. Et j'y ai pensé trop tard. Et à cette époque-là, il n'y avait que Phoebe Brand qui était encore vivante. Et par mon ami Norman Lloyd, j'ai voulu la joindre. Et Norman a tenté de la joindre, mais on lui a dit c'est pas la peine de lui parler, c'est trop. Je ne dis pas que tout ce que dit Cazan est faux, mais que ce n'est pas mis en question. On prend le seul témoignage et comme si c'était acte de vérité. Ça, c'est ce que je conteste.
On peut pas comparer avec la concierge pendant l'occupation qui dit à la Gestapo il y a des juifs qui habitent au cinquième étage. Il s'agit pas de ça. D'abord, il s'agit pas non plus de la Gestapo dans ce cas précis, même si le macartisme a été une période extrêmement pénible pour l'Amérique et très dure et épouvantable. Je pense que Cazan, incontestablement, a fait d'une part un acte de faiblesse, et aussi un acte politique. C'est-à-dire que faiblesse, c'était de perdre son travail. Il était au sommet de la gloire. Il était à la fois le prix Pulitzer. Il avait à la fois le prix de la meilleure mise en scène de théâtre sur la côte Est et l'Oscar du meilleur film avec Gentleman's Agreement, Le mur invisible, sur la côte Ouest, la même année. Et la création du tramway nommé Désir, c'est-à-dire que c'était le sommet de la gloire dans tous les domaines. Donc c'était la perte de tout cela, et c'était la liste noire, donc je crois qu'il a refusé d'abord de parler. Et puis ensuite, sa femme, qui avait une très grande influence sur lui, Molly Day Thatcher, qui plus tard allait être un des grands soutiens de Kennedy, qui allait même écrire le discours de Kennedy, etc., qui est une femme de gauche très engagée, très anti-stalinienne, très anti-communiste, lui a dit, écoute, il faut que tu y ailles. Tu vas pas payer pour ces gens que tu méprises, qui soutiennent une dictature, qui sont tous des staliniens convaincus. Tu vas tout perdre, on a quatre enfants, voilà. Et il y est allé. il est allé, et il, comme tout ce que fait Kazan, il est allé jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il a pris une page de publicité dans le New York Times pour revendiquer son geste, en disant que effectivement, dans des circonstances aussi dramatiques que traversait l'Amérique, il y a toujours des, on fait pas d'omelette sans casser des œufs, on va blesser des gens, mais ce sont des périodes extrêmement tragiques et que voilà, il a pris cette décision. Évidemment, personne ne peut approuver cette décision, mais c'est sûr que Kazan. C'est sûr que Kazan a affaibli incontestablement.
Des amis troublés m'ont demandé pourquoi je n'avais pas choisi l'option descente. Tout dire à mon sujet sans dénoncer ceux du groupe. Mais ce n'était pas ce que je voulais. Je pensais que cette commission que tout le monde méprisait avait une mission justifiée. Mes amis proches éprouvèrent une déception profonde. Molly insista pour que j'écrive une déclaration expliquant mon attitude au public. Nous achetâmes un espace dans le New York Times et le publiâmes comme encart publicitaire. Mais personne ne changea d'avis sur mon compte après l'avoir lu. J'étais toujours persuadé d'avoir agi correctement, avec sincérité et après une réflexion soigneuse. Mais il y avait une certaine indécence dans ce que j'avais fait. Et mes motivations n'étaient pas tout à fait nettes. Ce que j'avais fait était correct, mais était-ce moral ?
Extrait de Une vie, l'autobiographie rédigée en 1989 par Elia Kazan.
Alors si on parle de 52, j'ai très bien connu Arnaud Dussault, qui était l'écrivain de Die Barberousse, qui était une pièce importante contre le racisme, et j'ai moins connu, mais j'ai quand même eu une longue après-midi avec Georges Tabori, qui avait écrit Flight into Egypt, et qui m'ont tous les deux dit que Kazan avait dit je ne dénoncerai jamais, un jour ou deux avant. Mais là, il a dénoncé. En dénonçant, il pouvait avoir des gros contrats pour le cinéma qu'il n'aurait jamais eu. Et que, après toutes les choses dites, je le faisais pour le bien de l'Amérique, pour dénoncer le communisme, etc. Pour eux, c'était entièrement faux.
I'd like to say something about that. Whenever it's brought up, or often when it's brought up.
Racontez un peu les faits tout de même, non? Il faut que Michel le fasse.
Alors. Often when it's brought up.
C'est un peu compliqué.
Non.
I'll answer that. Yes, often when it's brought up, I feel it's an effort to embarrass me. And,
à chaque fois qu'on soulève ça, je vois ça comme une volonté de m'embarrasser.
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Au contraire.
And I'm not embarrassed about it.
Et je ne suis pas embarrassé.
And I did what I thought right, and I can't be embarrassed about it. It makes no difference to me what I'm not necessarily tied into what anyone else says, and I'm not displeased with it. So I let it go. And also, the reason I feel that whoever asked the question wants to embarrass me was it happened 30 years ago, and it's still on people's minds. Okay. I don't think we're going into another period like that. It was
c'est arrivé il y a 30 ans. Et
oui. Exactement 30 ans.
Many people were hurt. Many friends of mine were hurt.
Beaucoup de mes amis ont été blessés.
And it was a bad time in American life. I don't doubt that. And I knew many of the people. Okay.
C'était une période difficile dans la vie américaine. J'ai connu beaucoup de gens qui ont été touchés par ça.
Thank you. The very essence of a choice is, the very word choice means that you're making a choice between two difficult things. And we have the wrong idea about choice. Choice is always at a cost. For example,
faisons un choix entre deux choses. Le choix, c'est entre deux choses. Et dans un choix, on perd toujours quelque chose.
You're in love with two girls. It's happened to all of us. Or girls in love with two men.
On aime deux filles ou une fille aime deux garçons. C'est arrivé à nous tous.
You take one and you lose the other.
Vous en prenez un, vous perdez l'autre.
Vous ne regrettez absolument rien de ce que vous avez fait à un moment où vous étiez marqué par une idéologie assez profonde tout de même.
Yes, well, I think what he said, Forestier said, is true. I do feel that. But it's also like an excuse for that, which I don't feel. I mean, it's a long subject, and I'm not...
It's not an excuse. You don't need an excuse, sir.
No, I don't need an excuse. It's right. That's also... I could go into it, Forestier, but I don't know whether this is the time to do it. But since you bring it up, I'll say that I'm not either embarrassed, ashamed, or anything else. I think it was something I did that I still think is right. Most of my friends don't agree with me.
Beaucoup de mes amis ne sont pas d'accord, mais moi je pense que j'ai eu raison de faire ce que je fais.
Hey, friendly! Sors de là si t'es un homme! Sans tes beaux complets, l'argent de la corruption,
tes sous-tables, tes pourboires et tes pistolets roses, tu n'es qu'un zéro. Ta force, c'est uniquement ton portefeuille et ton revolver.
T'es riche, tu nous as vendus.
À ton point de vue, peut-être, mais je suis de ce côté-ci maintenant. C'est moi que j'ai vendu, et pendant des années, sans m'en rendre compte.
Amène-toi.
T'as fait descendre Joe, t'as fait descendre Duggan, t'as fait descendre Charlie, qui était un de tes hommes. Tu te prends pour un seigneur tout-puissant, mais sais-tu ce que t'es?
Viens donc.
T'es un salaud, un feignant, une ordure dégoûtante. Et je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait. Entendez-vous? Je suis content. Et je continuerai jusqu'à ce que j'ai ta peau.
Viens-y, mais viens, dis donc.
Dans Sur les quais, en 1954, Kazan justifiait la délation à travers le personnage interprété par Marlon Brando d'un docker balançant à la justice le parrain assassin qui contrôlait les embauches sur le port de New York.
Je pense que Kazan a été dans l'affaire du macartisme et de la délation un peu le bouc émissaire. Et c'était évidemment très pratique d'avoir l'homme le plus célèbre parmi ceux qui ont dénoncé, c'était Kazan, de faire de lui le porte-drapeau et ne pas tenir compte de tout l'ensemble. Je veux dire, moi je crois, comme Joseph Conrad, à la deuxième chance. Je crois que tout individu a une deuxième chance. Et Kazan a prouvé, avec toute son œuvre, qu'il était très critique. Je pense que ça a permis aussi, en fixant l'attention sur Kazan, de ne pas incriminer les patrons des studios. Parce que les patrons des studios, Jack Warner, Louis B. Mayer, enfin tous ces grands pontes, se sont réunis à l'hôtel Waldorf Astoria, je crois que c'était en 1948 ou 49, et ils ont établi la liste noire. Personne ne les obligeait. Ils étaient propriétaires de leur maison de production, totalement indépendants. Le Parti communiste américain était totalement légal. Ils pouvaient très bien dire à la chasse aux sorcières, excusez-nous, mais nous employons les meilleurs, et si Monsieur Dalton Trumbo est communiste, c'est pas notre problème, nous continuerons à travailler avec lui et il sera crédité au générique. Ils ne l'ont pas fait par une grande lâcheté, parce que eux, ils ne perdaient rien. Ils perdaient pas leur boulot, comme Kazan, qui perdait tout. Ils ne perdaient rien. Or, ils ne l'ont pas fait. Et s'ils l'avaient fait, s'ils s'étaient opposés courageusement, alors qu'ils n'ont jamais été attaqués pour ça, jamais, et pour cause, parce que eux, ils étaient puissants dans la presse, et ils pouvaient faire le silence, s'ils avaient dit « nous engageons qui nous voulons », eh bien, il n'y avait plus de liste noire, il n'y avait plus de témoignages de Kazan, et tout était terminé. Ils ne l'ont pas fait.
J'ai fait un peu de café, j'ai pensé que ça te ferait plaisir. En tout cas, maintenant, c'est terminé.
Mes amis ne veulent plus me parler.
Es-tu sûr qu'ils soient tes amis?
Cette démarche-là, n'est-ce pas, moi je la trouve absurde, personnellement, qui consiste dans les bons points à ceux qui regrettent, qui disent qu'ils regrettent l'avoir fait, et que ceux qui persévèrent, des très mauvais points. Oui, enfin bon, ça me paraît absolument absurde, étant donné que c'est une autre façon d'occulter le rôle, la dimension politique. Ces gens qui ont cédé aux pressions, qui ont décidé qu'ils voulaient travailler, continuer de travailler, non pas s'expatrier, rentrer sous terre, enfin, c'était un choix très dur, hein. Ben, ils étaient, et il faut comprendre que cette pression n'était pas que dans leur milieu. C'était dans tout le pays, n'est-ce pas? Alors franchement, je n'ai pas beaucoup de... Je ne suis pas un grand fan de ces mecs-là, et en même temps, je les comprends fort bien. Alors Kazan est un cas à part, semble-t-il. Il avait l'air assez arrogant dans sa façon de traiter les gens qui l'accusaient. Mais en même temps, je l'ai constaté récemment, notamment en regardant un film qui s'appelle Splendor in the Grass. Il avait encore une assez forte conscience de classe. Et que ce film, qui est une dénonciation virulente du rapport social de sexe aux États-Unis, n'est-ce pas, le dating system et tout ça, c'est même presque un pamphlet là-dessus, n'est-ce pas, et avec une dimension de classe très claire, n'est-ce pas, il y a des rapports des riches et des moins riches, etc. Je me suis dit, tiens, il n'a pas tout oublié, ce monsieur.
I can say is when people criticize me, I don't say it out loud because I don't want to beg.
Mais vous savez tout ce que je peux répondre aux gens qui me font critique. C'est regardez mes films, regardez ce que j'ai fait.
In America, in Splendor in the Grass, in Wild River, I think I've done pictures that are left arrangement. And I'm still called a communist. My name is still.
Je pense que j'ai fait des films qui font qu'on m'appelle, qu'on me nomme encore comme un communiste. Et les gens de droite regardent mes films et me disent, mais vous faites toujours la même chose. Je refuse d'être terrorisé. Et c'est pour ça que maintenant, la gauche commence à nouveau à apprécier ce que je fais, le travail que je fais.
Et ça a nourri son cinéma, il est devenu un grand metteur en scène, c'est immoral si on veut, mais c'est vrai, il est devenu un très grand metteur en scène à partir de là, parce qu'il a compris la complexité de l'être humain. Il a compris que l'être humain est partagé entre des désirs complètement contradictoires, entre ce que l'on veut, ce que l'on dit, ce que l'on fait, etc. Et donc, voilà, il est devenu, comme les grands romanciers russes, comme Dostoïevski, comme d'autres, comme Tolstoï, il est devenu un analyste de l'être humain.
L'artiste a-t-il grandi là où l'homme s'est perdu ? Le génie de Kazan s'est-il nourri de sa trahison ? Question fascinante et ambiguë qu'il suffirait à en faire un cinéaste à part. Sa fin de carrière sera-t-elle elle aussi un prix payé à cette ambiguïté ? Pendant les 25 dernières années de sa vie, alors qu'il écrira 6 romans dont plusieurs best-sellers, il échouera à monter un dernier film, Au-delà de la mer Égée, qui devait raconter le retour en Anatolie, 20 ans après, du héros d'America America. La boucle était bouclée.
Hollywood ne produit pas des gens qui ne font plus de succès. C'est-à-dire, Le Dernier Nabab a été un énorme flop. L'arrangement n'a pas du tout rapporté ce qu'il croyait. Les Visiteurs est passé inaperçu. Mais je pense que, à l'époque, il était tellement heureux d'être romancier et romancier à succès que ça ne lui coûtait pas aussi cher que si ça avait été toute sa vie. S'il avait pu faire des films, tant mieux, et il le souhaitait, mais il avait une autre activité. Kazan a tourné, alors qu'il venait de tourner un film comme L'Arrangement, qui est une super production, il a tourné Les Visiteurs dans sa maison de campagne pour 60 000 $, avec une équipe de 5 acteurs et 3 techniciens. Comme s'il recommençait à zéro son travail, comme s'il tournait comme Stanley Kubrick tournait Le Baiser du Tueur dans les rues de New York, voilà, avec rien. Je trouve ça un acte d'indépendance d'esprit, de courage et d'autonomie absolument exceptionnel.
Je ne vais pas plus loin. Depuis ce moment-là, rien ne s'est passé dans ma vie qui puisse vous intéresser. Je n'ai pas tourné d'autres films, ni mis en scène d'autres pièces. Je mène une existence tranquille. Chaque matin, je m'assieds devant ma machine à écrire et je tape les pages d'un livre. Mes romans, 6, parlent pour moi. Pour autant qu'un homme vieillissant le puisse, je profite de mes jours et de mes nuits. J'ai éprouvé regret et sentiment de culpabilité, mais je me suis efforcé d'y parer et j'ai réussi.
C'était Une vie, une œuvre, Elia Kazan. Archivina Aude Vassan, extrait du Masque et la plume spécial Elia Kazan, 4 avril 1981. Extrait de Kazan par Kazan, série d'entretiens avec Michel Simon, réalisée en 1971. Merci à Michel Simon, journaliste, auteur de Kazan l'osé entretien, Stock 2009, Pierre Rissian, cinéaste et producteur, Catherine Fruchon-Toussaint, journaliste, Noël Burch, documentariste. Extrait d'Une vie, l'autobiographie d'Elia Kazan, lue par Gilles Knezé. Attaché d'émission, Claire Poinsignon. Coordination, Irène Omelianenko. Mixage, Manuel Couturier.
Réalisation Guillaume Baldi, un documentaire de Hubert Prolongeau.